Cinémag avec Cédric Séquinel.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinémag, votre magazine de cinéma à écouter et à podcaster toutes les semaines sur Radio Grand Ciel, bien évidemment. Après vous avoir fait voyager la semaine dernière en Inde et en Norvège, je vous ramène aujourd'hui pas très très loin d'ici, précisément en Angleterre, pour un film et une série typiquement anglais. Alors, let's go to England! Et je vais commencer par vous parler d'un film sorti le 29 janvier sur la plateforme Netflix. Il s'agit de The Dig de Simon Stone avec Ralph Fiennes et Carey Mulligan. The Dig est basé sur une histoire vraie, à savoir la découverte du trésor de Sutton Hoo, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de toute l'histoire du Royaume-Uni. Tout commence lorsque la jeune et riche veuve Edith Pretty embauche Basil Brown, archéologue autodidacte et spécialisé dans les excavations, pour déblayer et découvrir ce qu'il se cache derrière les tumulus qui constellent son terrain. Des espèces de grosses mottes de terre, hein. Très rapidement, Basil découvre que le plus grand tumulus d'entre eux cache en fait les entrailles d'un bateau qui aurait servi de chambre funéraire à un chef anglo-saxon du VIe siècle. Bien évidemment, le trésor que va constituer cette découverte va attirer l'attention de tous les musées, qui décident alors de s'accaparer le site et de proposer leurs propres archéologues réputés et diplômés. Les relations se nouent, se créent, et alors que le tombeau est petit à petit mis à jour, l'Angleterre se prépare à entrer en guerre contre l'Allemagne. Nous sommes en effet en 1938. Ce qui va créer tout un tas de confusion dans les sentiments de tous les protagonistes de cette histoire, qu'il s'agisse donc de Simon, d'Edith, qui est condamné à mourir d'une détresse cardiaque et qui se refuse à laisser tout seul son fils de 10 ans, mais aussi de Peggy, une jeune archéologiste mal mariée à un époux qui ne la désire pas et qui se sent vraiment attirée par Rory, le jeune cousin d'Edith qui lui s'apprête à partir au front. Alors voilà, sincèrement, je ne m'attendais pas grand-chose en regardant ce film, et pour tout vous dire, lorsqu'il est apparu dans la liste des nouveautés de la semaine, je me suis même demandé si ça valait le coup de le regarder. Parce que bon, Netflix a souvent tendance à proposer des films qu'on pourrait appeler « de flux », c'est-à-dire des productions assez moyennes qui ne sont destinées qu'à alimenter le flot incessant de ces nouveautés. Mais la présence de Ralph Fiennes, mais aussi de Carey Mulligan, m'a assez interpellé, pour que je décide d'y jeter un petit coup d'œil, en me disant, bon, bah, au pire, j'aurais perdu 2 heures, hein. Eh ben non, franchement, j'ai vraiment bien fait de le regarder. Et en fait, c'est ça qui est bien avec le cinéma. C'est qu'il n'y a rien de plus génial que de s'attendre à avoir un film moyen et puis de découvrir qu'il s'agit en réalité d'une véritable pépite. C'est clairement pour ça que moi, je regarde des films, pour découvrir des nouvelles choses et être enchanté par ce dont je ne m'attendais pas. Et je vous cacherai pas plus longtemps qu'ici, ça a vraiment été le cas. Le résumé que je vous ai donné il y a quelques secondes pourrait faire penser à un énième film mélo, anglais, assez réchauffé, mais en fait, il n'en est rien. Parce que l'effort sur la réalisation, et surtout sur le scénario, lui donne une dimension toute particulière. Parce que finalement, l'histoire est intéressante, et que le réalisateur Simon Stone, dont c'est à peine le deuxième film, et sa scénariste Moira Buffini, arrive à transformer ce qui aurait pu être un film un peu trop lourd en un véritable bijou de finesse, de non-dit et de longs moments de pause et d'introspection. Ne vous attendez pas à ce que tout le petit monde qui gravite autour de ce bateau vous livre ne serait-ce qu'un seul instant ses sentiments ou ses aspirations. Le scénario est trop délicat pour ça. Et il ne prend pas le spectateur pour un idiot en lui livrant ce qu'il a compris depuis le début. Non, dans The Dig, tout passe par des silences, des regards, des attitudes. Rien n'est jamais montré, tout est suggéré. Et c'est la première force de ce film. Tout ce que ressentent les personnages passe uniquement par les regards ou les réflexions des autres. En jouant tout le temps sur le second degré, sur l'implicite, Simon Stone arrive à nous immerger totalement dans une histoire finalement assez peu riche en rebondissements, hein, puisqu'il s'agit juste de déterrer un bateau, mais riche en fait par l'évolution des sentiments de son casting. Casting qui est d'ailleurs juste excellentissime. Ralph Fiennes est, on le sait, un très bon acteur, et le voir en vieil homme qui retrouve le goût de sa vie au fil de ses découvertes et de la présence d'Edith dans une relation qui pourrait un petit peu faire penser à celle des vestiges du jour, eh bien, ça lui redonne une deuxième jeunesse. En plus, il a toujours cette espèce de petit regard en dessous. On a vraiment envie de le prendre dans ses bras. Voilà, quant à Carey Mulligan, bah, elle est tout simplement parfaite dans le rôle de cette jeune femme qui va bientôt mourir, qui le sait, qui ne veut pas le dire, et dont l'imminence de la guerre va lui rappeler à chaque fois son funeste destin. Mais la Palme d'Or, hein, si j'ose dire, revient à deux autres actrices que je ne connaissais pas. Tout d'abord Monica Dolan, que vous avez pu voir dans Call the Midwife ou encore Never Let Me Go, le film avec Keira Knightley, et qui, elle, joue le rôle de la femme de Basil, celle qui le comprend, qui accepte ses passions, qui accepte même de le voir rajeuni par ses sentiments pour Edith. Et finalement, c'est par elle que toute l'intrigue prend corps. Elle n'a pourtant qu'un temps de présence très très réduit hein, à l'écran, mais son interprétation douce et délicate me semble être, en tout cas en ce qui me concerne, la pierre angulaire du film. C'est vraiment à travers elle que tout se passe. Ensuite, ben, on ne peut pas écarter non plus la prestation de Lily James, la Cendrillon ratée de Kenneth Branagh, qu'on a pu voir aussi régulièrement dans la série Downton Abbey, ou encore dans Mamma Mia, Here We Go Again. Elle est réellement solaire dans tout le film, dans ce rôle d'une jeune archéologue tout juste mariée dans ce qui semble une union d'agrément, et qui voit son mari partir, et qui va devoir donc prendre sa vie et son destin entre ses mains. Vraiment, Lily James, elle illumine le film par sa délicatesse, par la justesse de ses réactions, et vous l'aurez compris, c'est donc une véritable réussite au niveau des acteurs. J'aurais tendance à dire c'est normal, parce que c'est un film anglais. L'un des derniers points remarquables de The Dig, c'est aussi sa fin. Si vous êtes un peu connaisseur des productions anglaises, vous savez que généralement, bah, ces derniers sont quand même très doués pour vous tirer une larme à chaque fin un peu mélodramatique, et qu'ils ne rechignent jamais à vous présenter des fins qui ne se terminent pas bien. Ici, même si le réalisateur est australien, c'est bien évidemment le cas, et c'est encore une fois remarquable de subtilité et de tendresse. The Dig, avec bien évidemment les débuts de la Seconde Guerre mondiale en toile de fond, c'est, en dehors d'un aspect mélo sur les relations impossibles entre les personnages, surtout un film sur l'inexorabilité du destin, sur l'impossibilité de réussir si on ne prend pas les choses en main. Ça va parler de la mort, de la vieillesse. Alors oui, dit comme ça, bah, on se dit qu'on va devoir regarder un film assez lourd, mais en fait pas du tout. Jamais on ne rentrera dans le pathos des personnages. Jamais la caméra ne va s'approcher trop près d'eux. Simon Stone, il utilise d'autres procédés, comme ces longues images contemplatives où s'entremêlent dialogue d'une scène et image de la scène suivante. Il utilise une caméra qui est extrêmement fluide, qui va naviguer entre les personnages, les intrigues, et il va utiliser aussi l'immensité de son décor, cette espèce de land où il y a juste des espèces de gros monticules de terre, bah, comme une opposition aux tout petits personnages qui y cohabitent. La dernière scène, hein, qui se passe de nuit, est à ce titre l'une des plus réussies de tout le film. En tout cas, c'est celle qui va nous proposer une fin assez onirique, et c'est ce qui va un petit peu nous réchauffer le cœur, même si on ne pourra pas s'empêcher de verser quelques larmes. J'aurais tendance à dire, et là je vais vraiment exagérer un peu, que c'est une sorte de mélange entre du Peter Weir, du Cercle des Poètes Disparus, et puis de Terrence Malick. Et ça, ben moi, c'est tout le cinéma que j'aime, celui qui ne vous prend pas pour un idiot, et qui va vous laisser uniquement avec votre propre appréciation des sentiments des personnages. C'est vraiment ça que j'ai envie de voir au cinéma. Bon, si avec ça, je vous ai pas donné envie de voir The Dig, ben moi, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie.
Cinémag, avec Cédric Séquinel.
Nous voici donc de retour pour cette deuxième partie de Cinémag, et nous allons rester encore une fois en Angleterre avec une série méconnue mais ô combien extraordinaire, j'ai nommé Life on Mars. Life on Mars est une série télévisée donc de 2006 qui est composée uniquement de deux saisons de 8 épisodes chacune. Donc autant vous dire que ça va pas vous prendre énormément de temps à regarder. Life on Mars est assez inconnue en France, elle n'a été diffusée que sur la chaîne 13ème rue, mais elle est heureusement disponible en DVD, C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découverte, hein. Et je suis certain que vous pourrez trouver l'intégrale des deux saisons à vraiment pas cher. Donc autant vous dire qu'il faut vous jeter dessus le plus rapidement possible. Life on Mars, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série policière au départ, dont l'action commence à notre époque en Angleterre, où Sam Tyler, inspecteur chef de la police de Manchester, est à la recherche de sa petite amie qui a, selon toute vraisemblance, été enlevée par un tueur en série. Mais attention, n'allez pas croire que Life on Mars est une série sur les tueurs en série, etc., etc. Ce n'est pas ça du tout, c'est simplement le point de départ de la série, puisque lors de son enquête, Sam Tyler est brusquement renversé par une voiture et se réveille donc à l'hôpital en 1973, presque 40 ans plus tôt, où il est encore inspecteur de la police. Sauf que cette fois-ci, il n'est qu'un simple enquêteur et qu'il est sous les ordres du tyrannique et peu scrupuleux Gene Hunt. Sam va alors essayer d'utiliser son expérience des méthodes scientifiques des années 2000 afin de résoudre des enquêtes des années 70 tout en essayant de comprendre ce qui a bien pu lui arriver et comment il a pu se retrouver ici. Est-ce qu'il est dans le coma et qu'il rêve? Est-ce qu'il a vraiment voyagé dans le temps? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Eh bien, vous aurez la réponse à la fin de la série, je vous le garantis. Car oui, Life on Mars, contrairement à beaucoup d'autres séries, a été pensé dans son intégralité, avec un début, un milieu et une fin. Et c'est quand même assez agréable de savoir, lorsqu'on commence une série, qu'on aura bien droit à une fin qui fait sens. Hein, ce ne sont pas les fans de Battlestar Galactica ou de Lost qui vont me contredire. Ça ne navigue pas à vue et ça propose une histoire cohérente. Que vous dire de plus sur Life on Mars? Que si la série commence un petit peu comme une comédie, jouant sur les contrastes entre un inspecteur moderne, consciencieux, et une espèce de brute à l'ancienne qui n'hésite pas à violenter ses suspects avec une batte de baseball, elle se transforme rapidement en autre chose. Les mystères s'accumulent autour de la situation de Sam, qui ne comprend toujours pas où il est, ce qu'il doit faire ici, et surtout comment il peut rentrer chez lui. Mais c'est aussi l'occasion de voir une jolie histoire d'amour. En effet, Sam va rapidement se rapprocher d'Annie, une agente de police qui le croit, et qui va l'aider à s'adapter à son nouvel environnement. Et le début de romance entre les deux est juste magnifique. Il faut préciser aussi que la série est portée par un casting parfait, avec des acteurs pas vraiment connus en France, mais qui sont de véritables références au Royaume-Uni, à savoir John Sim et Philip Glenister. Mais ce n'est pas tout. En dehors d'un scénario cordeau, Life on Mars bénéficie d'une réalisation soignée, et vous l'aurez deviné si vous êtes fan de David Bowie, d'une bande-son à la hauteur. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Il y a des tonnes d'inventivité, avec l'utilisation de ralentis, d'effets visuels adaptés, et incorporés dans l'histoire, en plus de manière naturelle. Et franchement, le dernier épisode, où on apprend tout ce qui se passe et toute la vérité sur cette histoire, il va simplement vous rendre fou, avant de vous laisser pantois devant, finalement, le choix d'un personnage pris entre ses nouvelles aspirations et ses anciennes, c'est le choix entre deux univers. Voilà, je ne peux que vous conseiller Life on Mars, qui est, je pense, on peut le dire, une de mes 3 séries préférées au monde, donc disponible en DVD. Eh bien, notre émission est terminée, je vous laisse, et puis je vous dis à dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, je laisse la place à l'équipe de l'option cinéma du lycée Rotrou et de Cinéclic. À très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous.
Cinémag avec Cédric Sequinel.